J'ouvre en moi-même un théâtre où se joue un faux sommeil. Georges Bataille, la haine de la poésie. Avec Juliette Bernatché et Simon Dumas. Bienvenue à La haine de la poésie, une émission qui cherche à mettre en lumière un imaginaire collectif de la poésie, comme une façon qu'elle a d'être à la fois partout et invisible, ignorée même, mais jamais totalement absente de la vie de quiconque. Deux fois par mois, nous vous proposerons une rencontre avec une personne active dans la société, que ce soit sur le plan culturel, politique ou philosophique. Nous leur demanderons ce qu'est la poésie pour eux, et quelle est la place qu'elle prend dans leur vie, et ce, même s'ils n'en lisent pas.
Aujourd'hui à l'émission, on reçoit les deux artistes multidisciplinaires Erika Hagen-Veilleux et Lorraine Hartley. D'un côté, Erika, qui navigue dans les milieux du cirque, de la poésie, de la musique, de la danse et du théâtre. Puis Lorraine, comédienne et autrice de théâtre, de scénarios et de poésie, en plus d'être traductrice. Il nous tardait d'explorer avec elle la pluralité des langages. D'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous définissez votre pratique artistique.
Moi, je fais beaucoup de choses, puis je dirais que ma définition de ma pratique artistique est constamment en évolution. Donc, pendant longtemps, je me suis considérée comme artiste multidisciplinaire en ayant plus spécifiquement une dénomination artiste de cirque, musicienne, poète. Maintenant, dépendamment de qu'est-ce qui est comme en prédominance dans mes projets. Des fois, j'aime mieux mettre musicienne avant artiste de cirque poète avant les autres. Fait que là, présentement, je me qualifie plus d'artiste multidisciplinaire. Puis même là, je me questionne un peu sur le terme multidisciplinaire. Je sais pas si ça devrait être plus interdisciplinaire, mais pour le moment, je dirais artiste multi, qui a une pratique ancrée beaucoup dans le mouvement, donc dans le cirque et la danse, mais qui a aussi beaucoup navigué dans le milieu de la musique et de la poésie, spécifiquement le milieu du slam. Donc, je dirais qu'en général, c'est ça. Puis j'essaie de faire des projets qui réussissent à flouer un peu tout ça. Donc, très poète, mais pas dans la définition conventionnelle du terme.
Et toi, Lorraine?
C'est intéressant de t'entendre, parce que c'est vrai qu'il y a comme des prédominances dans certains contextes de nos vies. Pour ma part, je me considère autrice, je me considère comédienne, traductrice, scénariste, poète, oui. Pour moi, autrice, c'est très large aussi. Là. C'est juste que les différents médiums d'écriture, les différentes formules qu'on emploie vont libérer différentes choses, mais c'est comme autrice au sens large. Dépendamment du contexte dans lequel je suis, des fois, j'en nomme qu'un. Des fois, j'en nomme cinq. Parce que c'est tout aussi vrai. Dépendamment du contexte, ça peut être tout aussi vrai de dire « Aujourd'hui, je suis ça principalement. » Puis à d'autres moments, je suis comme l'amalgame de ces choses-là que je peux apporter à un travail, à une collaboration. Mais principalement, je pense que je me suis mise à toucher un peu à toutes les formes d'écriture, le scénario, le texte théâtral, la poésie, des nouvelles, parce que c'est comme ça que j'habite mes intérêts. À un moment, je me suis comme rendu compte que quand je commençais à développer un intérêt pour une forme artistique, ma seule façon de complètement la comprendre, du moins de la façon dont je voulais la comprendre, c'était de moi-même y aller par l'écriture puis rentrer dedans par l'écriture. Fait que là, si je me mets à avoir un trip cinéma, puis je me dis, ma façon de vraiment plonger dans le cinéma, ça va être de me mettre à écrire des scénarios. C'est comme ma porte d'entrée vers tous ces univers-là. Bien, ma porte d'entrée, en fait, est toujours l'écriture. C'est vraiment comme ça que j'habite mes objectifs. Peu à peu, c'est comme si je devenais un peu touche-à-tout dans la littérature, puis en même temps, officiellement rien de tout ça. Je m'invente ces rôles-là, mais j'ai l'humilité de dire que je ne suis pas la meilleure autrice au monde, je ne suis pas la meilleure poète au monde, je m'invente poète, et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde. Donc, c'est aussi un rôle que j'accepte fièrement. Que je ne suis pas gênée de le nommer. Je ne me sens pas imposteur. J'ai juste comme l'humilité d'essayer puis de croire en cette tentative-là.
On dirait que dans les milieux artistiques, souvent, il faut comme se définir vraiment par comme une chose puis se considérer comme étant spécialiste de cette chose-là. Puis en étant des... En tout cas, moi, dans ma posture d'artiste qui est comme très touche-à-tout puis qui m'est comme lancée beaucoup dans des projets, qui est devenue comme conceptrice musicale autodidacte, qui est devenue comme... C'est pas entrer dans le monde littéraire comme de manière très comme un peu sinueuse pour m'y rendre. On dirait que des fois j'hésite à me qualifier des choses, à me dire ah oui, je suis artiste littéraire ou je suis telle chose, parce qu'on dirait que ce qui vient avec ça, c'est une qualification de comme de l'être comme à un niveau de je sais pas, de maîtrise comme très, très, très développée. Puis pourtant, on dirait qu'en étant artiste multi, moi, je me permets d'être débutante dans des disciplines puis dans différentes expressions artistiques. Fait que je raisonne vraiment avec ce que tu dis en disant des fois, je me qualifie comme une affaire. Des fois, j'ai l'humilité de dire, ben j'ai l'intérêt de ça, mais je me définis pas non plus comme étant... quelqu'un d'expert ou de super, qui a une pratique super développée. C'est comme être en constant apprentissage, en fait.
Mais c'est parce qu'on se hiérarchise dans la vie avec tellement suffisamment de choses déjà que souvent je me dis, tu sais, puis je comprends tout à fait le point de vue de certaines personnes qui pensent que, bon, il faut avoir comme fait ses preuves avant de se qualifier d'auteur, ou les personnes qui elles-mêmes se regardent puis se sentent imposteurs. Dans ce domaine-là, tu sais, je comprends toutes ces positions-là. Moi, j'ai l'impression qu'on s'hiérarchise avec assez d'affaires dans la vie que je me dis, si tu essaies, si tu te considères auteur-autrice, tu l'es. À mes yeux, la tentative de l'être est la chose la plus vraie que tu peux faire. Parce que ça, c'est quoi être expert en écriture? Tu sais, tout dépend de l'idée, de la pulsion que tu as cette journée-là. Tu sais, c'est comme, au final, c'est dans le contenu quotidien. T'sais, d'une pulsion tellement ponctuelle, la première chose que tu écris de ta vie peut être tellement juste versus quelque chose de plus intellectualisé que tu ferais plus tard. Pour moi, la tentative est la chose la plus vraie et touchante. Fait qu'à ce niveau-là, je suis comme, si tu te considères auteur, autrice, à mes yeux, tu l'es. Tu n'as pas besoin de me prouver que tu as publié quoi que ce soit, que tu as... Je trouve ça beau que tu te donnes ce titre parce que ça veut dire que tu crois en la valeur de tes idées et de tes sentiments.
Mais tu sais, c'est comme le désir de se réapproprier des termes qui ont été très, très, très rigides. En tout cas, moi, mon désir d'aller vers le multi s'est développé quand je me suis rendu compte que j'avais tellement essayé de m'identifier comme étant artiste de cirque, principalement quand j'étais dans une formation professionnelle de tout ça, puis que c'était tout le monde autour de moi en mangeait, en bouffait, puis je me suis dit, hey, moi, je suis pas heureuse dans cette structure-là, artistique, rigide, puis j'ai besoin d'avoir la flexibilité de définir c'est quoi pour moi être artiste de cirque, puis que ça inclut des définitions qui sont pas existantes autour de moi présentement. Puis, fait que je trouve ça beau qu'est-ce que tu dis, Lorraine, par rapport à le fait que la tentative est la légitimation, en fait, du titre dans une certaine sorte, mais aussi qu'on se redéfinit un peu c'est quoi ce titre-là, chaque artiste, chaque individu dans sa propre pratique. Ouais.
C'est intéressant, toute cette idée, puis ces idées que vous avancez autour de la définition, tu sais, puis de comment on se définit, puis comment est-ce qu'on construit notre identité d'artiste. Mais j'aimerais revenir un peu en arrière sur quelque chose que Lorraine a dit, et puis qui touche un peu la motivation, en fait. Tu as dit, Lorraine, que tu écris pour habiter. Donc, je trouve que... Puis cette idée, au départ, tu sais, avant la maîtrise ou je ne sais pas ce que ça pourrait être, être expert en écriture, je ne suis pas sûr que ça va vers une surintellectualisation de l'écriture en tant que telle. Peut-être même que c'est l'inverse. Mais cette idée d'habiter, écrire pour habiter, on pourrait déjà développer ça, c'est intéressant. Tu as dit habiter les objectifs, mais j'ai l'impression qu'on habite autre chose aussi en écrivant. on investit peut-être. Et puis peut-être que je tournerai la question vers Erika. Donc d'où est venu ce besoin d'écrire? Et puis pourquoi tu écris? Est-ce que c'est aussi pour habiter ou c'est pour autre chose?
Ben, je pense que ça fait longtemps que j'écris. Puis que mon rapport à l'écriture a quand même beaucoup changé depuis que j'ai commencé à écrire quand j'étais adolescente. J'aime vraiment le verbe que Lorraine a utilisé et que tu as repris, qui est le verbe « habiter », la poésie ou l'écriture pour habiter, parce que j'ai l'impression que mon rapport à l'écriture est devenu, au travers de ma pratique qui était quand même, puis qui demeure encore très corporelle, mon processus d'écriture, quand j'ai rencontré la poésie orale, a vraiment beaucoup, beaucoup pris son sens. Puis le rapport donc à l'écriture, oui, bon, avec le désir de préciser des expériences, de valider des manières de voir le monde, aussi de me questionner par rapport à ma manière de voir le monde, mais qui ensuite, quand est devenu très corporel dans le fait de le livrer sur scène ou d'avoir un rapport oral avec, définitivement rendu ma poésie comme très incarnée, puis le désir de faire de la poésie s'est transformé d'une manière à être beaucoup moins en espèce de chambre d'écho avec moi-même, de juste vouloir m'exprimer à moi-même, développer un esthétique particulier dans l'écriture. C'est comme si l'écriture poétique aller au-delà de l'écriture à ce moment-là, puis pouvait devenir une expérience qui était livrée, partagée corporellement et reçue et entendue aussi corporellement. Puis ça a beaucoup influencé pourquoi j'ai eu envie d'écrire, puis quel genre de projet j'ai eu envie de faire avec l'écriture.
C'est super intéressant parce que, bon, là, on parle d'écriture depuis tout à l'heure, mais il y a une nuance entre écriture et langage. Et puis, quand on parle de l'oralité, de la poésie orale, donc à la base, en fait, le langage précède l'écriture. Puis pour moi, la littérature, c'est de l'art concret avec du langage. Lorraine, toi, ton travail, il est aussi physique. Ben, en tout cas, il y a une partie de ton travail qui est physique, en fait. Puis je me demandais, est-ce qu'on peut écrire aussi pour habiter son corps?
Absolument. Absolument, je pense... Ben d'ailleurs, on dirait que j'ai le goût de regarder Erika et de faire « qu'est-ce que t'en penses? » parce que t'es aussi tellement physique comme interprète. J'ai envie de faire « vas-y! » Mais non, je pense absolument qu'on peut tout d'abord écrire scéniquement quelque chose qui ne serait pas dans la parole. Il y a beaucoup qui peut passer par le silence. Dans la vie, un silence peut être la chose la plus pleine au monde, à mon avis. Il y a des pièces de théâtre qui se trouve dans le sous-texte, qui se trouve dans le placement d'un corps en opposition à ce qui est dit. Moi, je pense que le langage est une... En fait, le mot est une forme de langage qu'on peut retrouver sur une scène, mais n'est qu'une forme qui peut être l'attrait principal d'une œuvre, tout comme il peut être l'espèce de distraction ou la chose à laquelle on pose un contraire pour le révéler ce dont le texte parle vraiment, ce dont l'œuvre parle vraiment. Des fois, ça va être l'espèce d'opposition qui est présentée entre ce qui est dit et ce qui est fait, qui est le vrai thème, par exemple, d'une œuvre. Donc oui, absolument, je pense qu'on peut... si c'était ça vraiment le sens de ta question, mais je pense pas que l'écriture passe nécessairement par le mot.
Les banques nous envoient des lettres à tous les mois, annonçant le jour où des hommes débarqueront pour dévorer les chatons nés dans la ruelle. J'essore la douleur de ton dos le soir et la crasse de ceux qui ont botché dans tes yeux. Tu nommes mes tristesses par leur nom de plante, ce qui m'aide à me déclouer le front de sur le mur. On déshabille nos armes et on les lave dans le bain. On voudrait les noyer, mais ce sont nos seuls enfants. On se prépare pour l'arrivée de leur gros char. On n'a rien sauf des bleuets dans le frigo, mais on a déjà gagné des guerres avec moins que ça. Je dépose ma fatigue dans l'espace de tes bras où c'est inscrit « We will not perish ». Et je sais que nous résisterons toutes les morts, sauf la vraie. Nous brodons sur nos joues des filets transparents. Ça fait des générations que nos mères nous apprennent à pêcher les bêtes sacrées dans le lac des jours ordinaires. Même adultes, nous nous installons tous les matins à la table de la cuisine et nous attendons la fraie pour la transvider dans l'aquarium de nos yeux, là où plusieurs jours ont su déposer leurs petits. Nous les regardons nager, ces petites fêtes. Quand le temps vient, nous laissons déborder nos yeux pour la mise à l'eau, pour la remise au monde des visages reconnus de nos existences. Ma mère dort dans la chambre d'invité. Elle est fatiguée de conduire. Elle demande à venir déposer son corps chez moi. Le matin, elle me jase du film qu'elle a vu hier. Sa langue déboutonne l'expérience, son rire vient décorer les murs de mon appartement. On se rencontre dans l'amitié de l'âge qui n'existe plus. On monte dans son char pour aller voir l'aïeul. Il a la même langue fourchue qu'elle et toute la tendresse qui vient avec. Il ne sait plus reconnaître mon visage, mais la douceur perle encore « and forever » sous ses paupières. Au Normandin, Chantal prend la commande, pendant que nous trois, assis dans le parcours génétique de l'amour, à se frayer un chemin entre le spaghetti, le pain blanc et les dédales de la mémoire. Je regarde ma mère recueillir son père dans l'enfance, broder sur ses bras des nouveaux villages. Il revient toujours poser son exil sur le bord de son visage, rassuré, comme moi, d'y reconnaître l'infini où le monde va pour boire.
Moi, Lorraine, je vais vous lire un extrait d'une suite en construction. Donc, comme j'en ai parlé dans le balado, je vous présente une tentative, tout simplement. Elle s'intitule « Sabler les talismans ». J'écoute une fois un soir un refrain d'une chanson. Dessine ton visage avec mes bottes. Retrouve derrière un meuble plusieurs sortes d'excuses. Tout près, muselé, des épaules bavardes, des genoux repliés. On me dit « Tu sais ?» Je dis « Je sais ». On me dit « Où est ton javelot ?» Je dis « Laissez chez nous ». J'ai la nuit dans l'ourlet de mon pantalon. Je porte encore un grand bruit dans le bas du dos. L'orage s'approche à mains nues. Les dents ravalées, tourne à gauche avant ma rue. J'ai oublié comment on s'appelle, j'ai oublié de peser la distance entre nos portes. J'ai compté une, deux, trois, quatre paires de draps entre tes paumes et ce qu'il faut dire. Des entailles aux mêmes places. Quelques paires de sous-vêtements, on part, je dis on part. Je donne aux fantômes des noms de fenêtres. Tu t'assois à table jusqu'à demain. Toi, les pieds plus hauts que la tête. Né la gorge en premier. Né les yeux ouverts. Je me choisis béante, trop de marches à monter. Mes côtes ne font pas toujours leur travail. La soif est une attaque formelle. Rien d'autre à fixer, seulement ça. La montée chancelante, le rituel acceptable des poignets noués. Sont là les nœuds d'un concert fragile qu'on écoute parfois. Je te rassure, je ne sais pas qui tu es. Juste un temple en plein déluge, une occasion manquée, un animal qui survit au kilomètre. Je ne t'entends pas, j'ai perdu le sens du rythme. J'ai oublié ton nom est un loup que je croise souvent. On va pleuvoir aujourd'hui, comme un rythme épique et lent qui annonce un désordre. Tu m'as dit « je n'ai jamais faim, jamais hâte au nouvel an. Je vais me tailler un lit quelque part et lire dans les crevasses. » Tu dis seulement les virgules. Moi, j'accroche mes prophéties dans les phrases trouées. Tu dis « je sais composer, pourtant les réflexes sont lourds. » Moi, j'écoute aux portes des bureaux de poste. J'attends le coup renversé. Tu entres par les sorties les plus fines quand la vaisselle est rangée. Dans le noir, ma nuque est un insecte étonnant qui ne dort jamais. Je n'ai rien de l'apocalypse que tu attendais. J'ai les mains douces et le cœur mat. Et quand je pleure, ce sont des huiles qui comptent gouttes aux arômes brûlés des meubles qu'on détruit pour faire de la place.
Donc, je voulais revenir sur la pluralité des langages. Donc, tu as sous-entendu, ou en tout cas, tu as évoqué, Lorraine, que il y a le langage parlé, donc le langage qu'on utilise avec des mots, mais il y a un langage cinématographique, un langage scénique, un langage image, un langage son, par exemple. Et donc, sur cette pluralité des langages-là, donc, comment est-ce que ça intervient dans votre travail? Est-ce que les uns influencent les autres?
Je pense que certainement, les sensibilités que j'apporte avec moi dans toutes les dimensions artistiques dans lesquelles je m'investis sont influencées par le corps et les mots et la musicalité. Des fois, c'est difficile de définir exactement comment. Je dirais que, mettons, au niveau de la corporalité puis l'aspect physique dans mon écriture, il y a beaucoup dans le genre d'image que je vais créer, dans ce que j'écris. Il y a une considération très grande pour la sensorialité. Quand je livre un poème à l'oral, il y a un travail rythmique qui est musical. Même au niveau de la respiration, même au niveau de la manière d'achurer les phrases. Puis sinon, en tant que musicienne, dans ce que je compose, la poésie, au niveau textuel, a une grande, grande, grande place dans ma composition, dans mes chansons. C'est comme aussi important que les mélodies, les accords, les harmonisations, les arrangements. Puis dans ce qui est corporel, je dirais que juste le fait d'avoir accès au langage pour exprimer ce que je ressens physiquement puis ce que j'ai envie de créer comme image dans une démarche corporelle, ça me donne une richesse d'évocation plus vaste dans moi, comment je réussis à articuler mes désirs. Donc, même si c'est dans le processus intime puis que ça le public ou mes collaborateurs, mes collaboratrices, ils ne sauront jamais que telle dimension poétique de telle phrase ou quoi que ce soit m'a influencée. Mais moi, ça me nourrit quand même beaucoup dans ma démarche corporelle. C'est ça qui est vraiment trippant, c'est que c'est comme... Il y a tellement de possibilités que c'est vraiment dynamique. Tout ça, c'est tellement vaste, le champ de possible de comment s'inspirer de chaque... champ de réflexion qui est prédominant dans chaque médium artistique. Là. Il n'y a pas de démarche qui demeure comme essentiellement cadrée dans une même manière de faire.
Dans les dernières choses que tu as nommées, je trouve que ça me fait un peu penser à des points de tension. C'est comme si dans la vie, quand tu fais une chorégraphie physique, là, une chorégraphie dansée, il y a des parties de ton corps pendant un instant qui sont assez libres. Puis après ça, tu vas avoir des parties de ton corps en torsion, puis en point de tension. Puis t'as comme, tu utilises une fraction de ton corps, puis c'est peut-être des coups saccadés. Puis tu te dis en écriture, en tout cas, j'avais comme l'impression que tu pouvais faire la même chose, mais en écriture, de faire quels sont les points de tension répétés qui vont faire d'une œuvre ce qu'elle est et ce que je veux qu'elle devienne. On dirait qu'on peut prendre un peu les mêmes codes qu'une chorégraphie physique.
Oui, mais tous ces codes-là, en fait, c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux comment est-ce que ce code-là peut s'appliquer, en fait, à une autre démarche.
Ouais.
Puis là, c'est là que ça devient vraiment trippant, parce que tu utilises un langage qui n'est pas propre à cet art-là pour voir qu'est-ce qui peut émerger.
En terminant, j'aimerais qu'on poursuive le filon de l'identité qu'on a abordé un petit peu plus tôt. Vous l'avez dit, vous êtes des touches à tout. On dirait que vous accumulez des couches de médiums artistiques qui se superposent les uns par-dessus les autres. J'ai l'impression aussi que votre démarche multi construit votre identité. Donc, je me demandais, selon vous, c'est quoi être une jeune femme artiste multidisciplinaire, autrice, dans notre milieu actuel?
Bien, c'est peut-être mon privilège qui parle, la chance que j'ai eue dans le peu d'années qui me séparent de ma sortie d'école. Puis c'est peut-être ça qui parle, c'est peut-être une espèce de naïveté que je pense un petit peu nécessaire au début de quand t'entames un chemin qui va être rigoureux, puis sinueux, puis pas toujours facile. Faut au moins que tu crois en l'utopie parce que tu vas avoir une fraction de ça au final. Fait que projette-toi loin, tu vas être en route vers ça. Mais j'ai l'impression que il y a la place qu'on veut que ça ait. C'est-à-dire que on peut dire que j'ai eu beaucoup de chance, par exemple, dans mon cas depuis ma sortie. On peut aussi dire que j'ai créé ma chance, je pense, d'une bonne façon. C'est un heureux mélange des deux. J'ai poussé là où je voulais pousser, puis là où il fallait que je pousse pour mener à terme quoi de moi je voulais faire habiter dans le milieu culturel que je ne voyais pas encore ou que je voyais déjà, mais auquel je voulais ajouter ma voix. Mais on dirait que c'est comme ça que je le vois présentement. Je me dis, il y a de la place pour tout ça si on se dit qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas la place pour ça. Si nous, on aime ça, il y a d'autres mondes qui vont aimer ça. Puis on va parler à je ne sais pas quel pourcentage du monde aimerait ce que j'aurais à leur proposer, mais il va sans doute y en avoir. Puis je pense que c'est d'y croire, en fait, c'est de pas... Mais ça revient un peu à ce que je disais au départ, d'essayer de se séparer du sentiment d'imposteur puis de se dire ta tentative est valide. Tu n'es pas en train de dire que tu es expert en quoi que ce soit. Ta tentative, c'est la chose la plus sincère qui peut sortir de toi. Donc, il y aura la place que tu décides d'y donner toi-même.
J'ai l'impression qu'il y a une soif d'avoir des nouvelles manières de penser les œuvres, de penser les démarches artistiques présentement pour essayer de voir okay, qu'est-ce qu'on fait avec ce désir-là de ne pas juste rester comme cantonné dans nos créneaux. Il y a vraiment un désir de rencontre, je pense, qui, moi, me stimule énormément. Il y a plein de monde qui font un travail qui m'inspire full, mais il n'y a personne autour de moi que je vois qui a une carrière que j'ai envie d'avoir. Je ne peux pas me dire, c'est ça mon modèle. Donc, là-dedans, tout est possible. Puis en même temps, je me dis, est-ce que j'ai trop faim? Est-ce que je suis trop ambitieuse de vouloir ce que je veux, d'être aussi présente à plusieurs niveaux, dans plusieurs différents projets, avec plusieurs différents chapeaux. Donc, c'est ça. C'est comme un mix de full d'espoir, full de réactions positives, full de désir de rencontre, puis un peu le doute de, OK, comme peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse des choix, que je priorise. Mais pour le moment, c'est juste positif. Que j'aille investi ma carrière de manière multi, ça me donne des opportunités que j'aurais jamais pu penser avoir.
une production de Rhizome qui remercie CKRL et la Ville de Québec via son entente sur son développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.